décryptage.
Anne Cantner.
C'est une nouvelle étape dans la série de procédures judiciaires lancées par les familles de djihadistes français. Une dizaine d'entre elles ont porté plainte contre le ministre des Affaires étrangères, plainte pour omission de porter secours. Ces familles réclament le retour des enfants français dont les parents avaient rejoint les rangs du groupe État islamique en Syrie. Pour l'instant, le gouvernement français lui privilégie le cas par cas. On estime qu'ils sont plus de 210 dans les camps de réfugiés contrôlés par les Kurdes en Syrie. Les trois quarts de ces enfants ont moins de 5 ans. Alors l'État français doit-il les rapatrier? Bienvenue dans Décryptage. Pour parler de cette question très sensible, nous recevons ce soir Raphaël Parizeau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit pénal à l'université Paris-Nanterre. En face de vous, Noé Pignette, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, ancien correspondant en Irak et en Syrie, collaborateur de RFI, mais aussi du journal La Croix, pour qui vous vous êtes rendu il y a quelques semaines dans les camps de réfugiés du Kurdistan syrien. Avec nous également, en ligne de Kamishlo au Kurdistan syrien, Chloé Troadec, chercheuse au Centre d'information bonsoir. Du Rojava. Bonsoir.
Bonsoir.
La plainte déposée auprès de la Cour de justice de la République en France est la dernière donc d'une série de procédures judiciaires engagées par les familles de djihadistes français. Raphaël Parizeau, en quoi consiste ce délit d'omission de porter secours ?
Alors, le délit d'omission de porter secours est un délit assez classique hein, en droit pénal, qui est prévu par le code pénal, article 223-6 du code pénal, et qui punit le fait pour quiconque de s'abstenir volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour soi ou pour les tiers, on peut lui prêter, soit par son action personnelle, soit par notre action personnelle, soit en provoquant un secours. Donc, si vous voulez, concernant l'infraction qui est reprochée au ministre des Affaires étrangères, il y a trois éléments ici peut-être sur lesquels s'attarder un instant. Est-ce qu'il y a une connaissance d'un péril immédiat qui nécessite une intervention ? Donc, c'est la question de savoir si la situation dans les camps est critique. Assurément, la réponse est oui. La deuxième chose, c'est peut-être de voir s'il y a une abstention volontaire d'intervenir de la part du ministre et du gouvernement derrière lui, ce qui pose la question des difficultés diplomatiques hein, qui peuvent évidemment qui se jouent là-bas, et puis la question s'il y a une véritable absence d'exécution de l'État français, d'absence de réaction de l'État français, s'agissant notamment de citoyens français à propos desquels on doit pouvoir intervenir. Et puis enfin, le troisième point, c'est est-ce que cette intervention se fait sans risque pour soi ou pour les tiers, et ça va être la question de savoir si le retour de ces enfants est susceptible d'être dangereux, non pas pour le ministre en lui-même, mais pour les tiers, c'est-à-dire la société française, ce que personnellement je ne pense pas.
Donc si je comprends bien, pour que cette plainte soit recevable, il faut notamment qu'il y ait un danger immédiat pour les enfants. Noé Pignette, vous qui étiez il y a quelques semaines dans les camps où se trouvent ces enfants, est-ce que vous pourriez nous décrire leurs conditions de vie ?
Ils vivent dans des conditions de vie qu'on pourrait qualifier, que plusieurs ONG en tout cas qualifient d'inhumaines. Elles le sont, enfin de mes propres yeux, j'ai vu des enfants qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Il n'y a pas de toilettes, pas d'accès à l'eau, pas d'accès à la nourriture, ou très peu d'accès à la nourriture. Il y a quelques ONG qui travaillent, mais il y a très peu d'ONG en fait réellement qui travaillent dans les camps. Il y a extrêmement peu de moyens. Et puis, oui, on est face à des enfants qui sont... Je me souviens d'un enfant à moitié chauve qui perdait ses ongles. Des enfants qui décèdent assez régulièrement de maladies aussi simples qu'une diarrhée. Donc oui, on peut dire clairement qu'ils vivent dans une situation inhumaine aujourd'hui.
J'ai donné quelques chiffres au tout début de cette émission. 210 enfants français qui se trouveraient aujourd'hui dans ces camps. Ces chiffres sont ceux du Centre d'analyse du terrorisme. Est-ce qu'il est possible, Noé Pignette, que ces enfants soient en fait plus nombreux ?
Oui, c'est tout à fait possible qu'ils soient plus nombreux, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement combien il y a d'enfants, puisqu'il y a des enfants qui sont nés sous la Daoula, sous l'État islamique, qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas été déclarés en France. Leurs grands-parents, par exemple, s'ils sont restés en France, connaissent leur existence, mais l'État français, lui, ni leur existence. Et donc, en fait, ils pourraient être plus nombreux que 210. Oui, 210, c'est un chiffre qu'on donne, mais c'est comme le nombre de personnes dans les camps, c'est des chiffres qui sont complètement invérifiables.
Chloé Troadec, ces enfants ont-ils tous des papiers ? Probablement que non, nous disait Noé Pignette à l'instant. Qu'est-ce que vous avez pu observer, vous, sur place ?
Oui, non, effectivement, on ne peut pas dire que tous ces enfants ont des papiers ou même ont été enregistrés. Il y a plusieurs cas, par exemple, ces deux dernières semaines, il y a une situation avec une enfant de Roumanie qui avait été cachée aussi par une autre famille de l'État islamique, donc une famille, notamment les familles syriennes ou irakiennes. Donc aussi, par exemple, ont récupéré des enfants de combattants étrangers ou de femmes étrangères et les ont fait passer pour leurs propres enfants. Donc c'est très compliqué en fait d'avoir une estimation juste du nombre d'enfants français, du nombre d'enfants étrangers en général, et tous ces enfants effectivement n'ont pas été enregistrés comme ils auraient dû l'être.
Ces enfants nés pendant les années de domination du groupe État islamique n'ont donc pas tous d'existence légale, et pour ceux qui sont nés de parents français n'ont pas tous de documents d'identité. Comment faire pour qu'ils soient reconnus par la France, Raphaël Parisot?
Alors, comment faire pour que ces enfants soient reconnus par la France? Il me semble qu'il y a tout un faisceau d'indices qui doit prévaloir, puisque de ce que j'ai pu lire en tout cas dans la presse, la plupart de ces femmes et de ces enfants avaient des échanges plus ou moins réguliers avec leur famille, donc ça fait partie des indices qu'on peut avoir sur leur nationalité, sur leur naissance, les photos qui peuvent circuler. Mais il me semble qu'il doit y avoir une présomption en faveur de ces enfants. Dès lors qu'ils accompagnent des femmes de nationalité française, on doit présumer qu'ils sont de nationalité française. Et évidemment, le vérifier ensuite. Mais il s'agit tout de même d'enfants qui souvent sont très jeunes, en tout cas de ce qu'on peut lire. Donc il y a un réel devoir à laisser à la charge de l'État français.
Et on considère effectivement que les trois quarts des enfants dont on parlait ont moins de 5 ans.
Pour certains, ils ne savent même plus qu'ils sont français en fait. Et s'ils sont orphelins, qu'ils ont été confiés à des familles syriennes ou à des familles irakiennes, s'ils ont été orphelins très jeunes, ils ne savent même plus qu'ils sont français et on ne saura plus jamais où sont ces enfants. C'est ce qui arrive à plusieurs familles, moi avec qui je suis régulièrement en contact, qui me disent on ne sait pas où sont nos petits-enfants. On ne sait plus et on ne saura peut-être jamais en fait.
Ces familles de djihadistes français qui ont porté plainte et qui réclament le retour en France des enfants aimeraient justement pouvoir les retrouver, les identifier et puis bien sûr les faire rentrer en France. Mais pour l'instant, on ne parle que des enfants. Raphaël Parisot, ces enfants peuvent-ils rentrer seuls? Il existe un principe en droit qui est celui de l'intérêt supérieur de l'enfant. Est-ce que cet intérêt est respecté si on le sépare de sa mère?
C'est une question éminemment compliquée. Évidemment, ça dépend aussi du choix de la mère qui peut être... Dans la première chose, il y a des mineurs qui sont isolés ou orphelins. Donc cela, la question ne se pose pas. La deuxième question, c'est pour les enfants qui sont accompagnés, qui ont encore leur mère vivante. Si elle décide de les laisser partir, pourquoi pas? Mais si elle ne décide pas, si elle décide de les garder avec elle et qu'elle demande à l'État de les rapatrier, il me semble que là, il y a une question évidemment très difficile à résoudre. Même si on a compris que ce n'était pas la priorité, puisque la priorité est celle des mineurs isolés ou orphelins, il doit falloir à un moment donné les rapatrier pour qu'ils soient pris en charge par leur famille en France, quitte à ce que leur mère, si elle a à répondre de ses actes en France devant la justice pénale, le fasse.
Pour l'instant, c'est ce qui s'est passé. Il y a deux Françaises qui ont été condamnées par des tribunaux en Irak et qui ont préféré que leurs enfants soient pris en charge en France. Donc, ça s'est déjà passé. Le porte-parole du Quai d'Orsay a précisé récemment que c'était les parents qui étaient responsables en premier chef de la situation dans laquelle se trouvaient ces enfants, c'est-à-dire qu'ils les avaient conduits dans une zone de guerre. Noé Pignette, quel est le sentiment, justement, des parents, des mères à qui vous avez pu parler?
Je dirais d'abord que, pour rebondir sur ce que vous disiez, que il y a aussi, pour les mères aujourd'hui, elles ont compris que leurs enfants c'était un blanc-seing pour leur retour, pour leur rapatriement à elles. Donc la plupart d'entre elles ne veulent pas que les enfants soient rapatriés sans elles, puisque elles comptent là-dessus pour être elles-mêmes rapatriées en France. Il y a déjà ça. Ensuite, bien sûr, quand on va voir les femmes dans les camps, elles parlent sous la contrainte puisqu'on est toujours avec des gardes kurdes, mais elles disent qu'elles regrettent majoritairement. Moi, je me souviens d'une djihadiste belge me dire. J'ai détruit sa vie avant même qu'il soit né, en parlant de son fils. Donc, bien sûr que pour certaines, elles regrettent en tout cas d'avoir mis leurs enfants dans cette situation, mais la plupart, par contre, ne regrettent pas d'avoir, elles, rejoint l'État islamique. Ça, c'est une réalité.
Qui existe encore aujourd'hui.
Qui existe encore aujourd'hui, oui, bien sûr. La plupart des femmes, moi, avec qui j'ai des contacts réguliers dans les camps, me disent qu'elles supportent toujours l'État islamique. Et d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui dans les camps, et c'est pour ça que il faut, à mon avis, en sortir les enfants, c'est que aujourd'hui, les enfants, très jeunes, vivent dans un contexte où les mères sont encore pro-État islamique. Dans le camp d'Al-Hol, juste avant que j'y arrive, des enfants avaient dessiné un drapeau de l'État islamique et l'avaient hissé dans le camp. Donc bien sûr que oui, il y a un danger pour les enfants à rester dans ce camp, et c'est évident.
Il y a cette difficulté-là. Vous disiez aussi que ces camps sont évidemment sous un contrôle très strict des Kurdes. Et le ministère des Affaires étrangères a précisé hier, après donc que cette plainte ait été déposée contre Jean-Yves Le Drian, le ministère a précisé que ces enfants, ces mineurs qui sont retenus dans le nord-est de la Syrie, n'étaient pas sous le contrôle effectif de la France. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire en droit, Raphaël Parisot ?
Alors, la question est de savoir qui tient le territoire là-bas. Donc, il est clair que la France ne tient pas le territoire. Mais pour autant, ces individus, ces mineurs ou même ces femmes, dès lors qu'elles sont citoyennes françaises, donc elles méritent la protection de l'État. Donc il me semble, oui, que l'État doit intervenir ici. Mais il est clair qu'il se heurte ici à des difficultés diplomatiques très importantes, puisque pour faire revenir ces enfants, donc la question... Moi, j'ai réfléchi sous l'angle du délit d'omission de porter secours, mais l'éloignement fait que les choses sont très compliquées, et à cela se double la difficulté de relations diplomatiques avec qui là-bas, enfin, puisque c'est un territoire compliqué. Donc, évidemment, c'est compliqué.
Et un territoire autonome qui est donc pour l'instant contrôlé par les Kurdes. Alors la France n'est évidemment pas le seul pays concerné, je vous donne quelques exemples. La Russie a organisé les premiers retours il y a plus d'un an. En février dernier, au moins 200 femmes et enfants ont été rapatriés. Le Kosovo lui a rapatrié en avril plus d'une centaine de ses ressortissants. Là aussi, des enfants de djihadistes et leurs mères. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'autres opérations de cette ampleur en Europe. Chloé Troadec, comment ces rapatriements sont organisés ?
Alors jusqu'à présent, on peut aussi diviser la question en deux phases, c'est-à-dire qu'il y a la phase des rapatriements qui ont pu avoir lieu avant la dernière opération contre l'État islamique, donc à Barros, et la deuxième phase qui a commencé après, où c'est notamment après que le nombre de combattants, femmes et enfants liés à l'État islamique est devenu aussi important. Par exemple, 70 000 personnes retenues dans le camp de Al-Hol.
Ça, c'était à partir du mois d'avril.
Non, c'est-à-dire que Al-Hol avant était un camp qui avait déjà accueillait déjà des réfugiés irakiens, donc des personnes victimes de l'État islamique en Irak, et qui depuis mars-avril, la chute de l'État islamique a doublé en fait en termes de nombre de personnes vivant dans le camp. Et donc pour l'instant, la manière dont en tout cas les autorités, donc je le précise, qui ne sont pas seulement kurdes, hein, mais les autorités du nord-est de la Syrie, qui sont composées de Kurdes, d'Arabes, Turkmènes, Assyriens, circassiens, etc., demandent que les États se rendent par eux-mêmes sur le territoire du nord-est de la Syrie et à ce moment-là signent un accord et à ce moment-là peuvent récupérer les enfants mais aussi les femmes et les hommes si cela est leur souhait. Mais c'est jusqu'à présent, donc vous avez donné quelques chiffres, on peut estimer que sur les 14 500 personnes étrangères liées à l'État islamique, donc hommes, femmes, enfants encore une fois, retenues dans le nord-est de la Syrie, seulement 5% ont été rapatriés. Et donc, on voit bien que c'est en fait les autorités du nord-est de la Syrie se sont retrouvées face à une question sans solution, puisque c'est-à-dire demander le rapatriement de ces personnes à leurs États respectifs. Et la réponse des États, pour la plupart, était le refus de leur rapatriement.
Oui, parce que de la part de nombreux pays, effectivement, les rapatriements sont effectués vraiment au compte-goutte. Hein. C'est le cas notamment de l'Allemagne, de la Belgique, de la France. La France a accueilli 5 enfants en mars, 12 en juin dernier. Et pourtant, il y a quelques mois, la France avait préparé un plan de rapatriement, un plan révélé par le journal Libération, qui avait eu accès à des documents du renseignement intérieur. On y trouvait des listes de noms, de lieux de détention, même des numéros de vol retour vers la France. Toujours selon Libération, les juges antiterroristes aussi s'étaient préparés. Et puis, tout a été abandonné. Raphaël Parisot, l'existence de ce plan montre en tout cas que la France a les capacités de prendre en charge ces djihadistes et leurs familles.
Oui, qu'elle a la capacité, et visiblement ça ne joue pas en faveur de la plainte qui est déposée, puisque visiblement la France agit. Donc elle ne s'abstient, enfin le ministre lui-même ne s'abstient pas volontairement d'agir. Il y a une action, mais dont on ne peut pas exiger qu'elle aboutisse, puisque c'est une obligation de moyens qui pèse sur lui et pas de résultats. Enfin, c'est quand même extrêmement compliqué.
Alors, au moment où tout a été abandonné, un sondage avait été publié qui révélait que la majorité des personnes interrogées s'inquiétaient d'un retour de djihadistes en France, y compris les enfants. Selon ce sondage, les deux tiers des personnes interrogées s'opposaient au retour des enfants. Est-ce que ce sentiment a influencé le gouvernement français, Noé Pignaud ?
C'est sûr qu'il y a un coup politique à ramener ces personnes, mais ce qu'il faut dire aux gens, ce qu'il faut expliquer peut-être au gouvernement aussi, c'est que plus on les laisse, plus ces gens seront dangereux. Plus on les laisse tous ensemble dans un camp, le camp de Al-Hol, il y a 80 000 personnes, entre 70 et 80 000 personnes, majoritairement radicalisées, ils vivent tous ensemble dans des conditions inhumaines comme je les décrivais. Le camp est prévu à la base pour 5 000 personnes. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils deviennent? Qu'est-ce que vous voulez que ces enfants deviennent autre que des potentielles bombes à retardement? Donc bien sûr, plus on les laisse là-bas, plus le danger est grand pour la France, puisqu'il faudra bien finir par les rapatrier, d'une part parce que les autorités kurdes ne vont pas les garder ad vitam aeternam, et d'autre part parce que la situation est tellement instable dans cette région, que si Bachar el-Assad ou les Turcs reprennent la région, là, advienne que pourra, mais... On ne sait pas ce que vont devenir ces enfants et ces femmes.
Donc. On ne sait pas où ils pourront aller. Et effectivement, ce que vous disiez, c'est aussi l'un des arguments qui est avancé par les familles des enfants de djihadistes. C'est ce risque de radicalisation dans les camps de réfugiés. L'une des avocates des familles estime même qu'on est en train de recréer l'État islamique bien dans sûr. Ce camp d'Al-Hol. Ce sont ces mots. Chloé Troadec, est-ce que ces propos vous semblent excessifs ou est-ce qu'au contraire, il existe bien un risque réel de voir ce groupe se reconstituer?
Alors, je pense que déjà, c'est faux de dire qu'il y a un risque de voir ce groupe se reconstituer, parce que s'il y a une victoire militaire contre le dernier bastion de l'État islamique à Barros, ça ne veut pas dire que l'État islamique, de toute façon, a été éradiqué. Donc, c'est-à-dire que les cellules dormantes qui, tous les jours, commettent des attentats au nord-est de la Syrie et en Irak sont toujours existantes, et pas seulement ici. C'est-à-dire qu'aussi, on a bien vu que l'État islamique est une organisation qui s'est internationalisée et qui a des cellules actuellement dans énormément d'endroits du monde. Une de ses bases notamment, et aussi les territoires aujourd'hui de Idlib, et aussi les territoires qui peuvent être tenus par l'État turc au nord-est de la Syrie, au nord-ouest de la Syrie, où énormément en fait d'anciens combattants de l'État islamique se sont réinstallés dans d'autres groupes islamistes là-bas. Et donc par exemple pour ce qui est aussi des femmes de Al-Hol, il y a aussi un effort qui est fait par ces combattants de l'État islamique, on peut toujours les appeler comme ça, d'essayer d'extraire leurs femmes d'Al-Hol. Il y a eu des campagnes de levée de fonds pour les libérer entre guillemets, et qui par exemple ont revendiqué qu'ils avaient réussi à sortir 4 femmes d'Al-Hol et qui étaient maintenant arrivé à Idlib.
Oui, c'est ce qu'a montré d'ailleurs une enquête du centre pour lequel vous travaillez. Ces prisonnières du camp d'Al-Hol reçoivent de l'argent du monde entier, et notamment de réseaux salafistes européens.
Oui, donc il y a deux campagnes, nous, qu'on a pu... sur lesquelles on a pu travailler. Une qui s'appelait Justice pour les Sœurs, qui était une campagne à l'initiative des femmes djihadistes allemandes. Elles demandaient aux gens de leur envoyer de l'argent donc par un système de PayPal, et après donc cet argent serait transféré à des personnes non étrangères, irakiennes ou syriennes à l'intérieur du camp, qui pourraient leur donner quand ils auraient l'occasion de se rencontrer dans le camp. Et une autre qui s'appelait Free the Female Prisoners, donc libérer les femmes prisonnières, c'est celle dont je vous parlais, qui revendique avoir libéré 4 femmes qui sont maintenant arrivées à Idlib.
Pour les faire sortir donc de ces camps, Chloé Troadec, il y a un autre point sur lequel je voulais vous entendre, c'est que pendant des mois et des mois, les autorités kurdes ont demandé aux pays concernés de rapatrier leurs ressortissants. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le discours change un peu.
Bah, de fait, on peut voir, et du coup c'est aussi des discussions qu'on a pu avoir avec les juges, avec les autorités ici, par rapport à la situation, c'est qu'après autant d'appels au rapatriement et autant d'inaction de la part des pays, notamment des pays les plus riches, on pourrait dire des pays européens, les États-Unis, c'est différent, mais d'autres pays... puissants, notamment en Europe, qui auraient les moyens financiers et politiques de ramener ces personnes. Il y a tellement d'inaction à amener aussi les autorités d'ici à proposer une autre solution, qui serait celle de la création d'une cour de justice internationale donc au nord-est de la Syrie, pour juger donc principalement les hommes étrangers et locaux, mais aussi les femmes qui sont responsables de crimes, parce qu'il y a énormément de femmes qui pourraient aussi être condamnées à des crimes, notamment par exemple dans le traitement qu'elles ont pu avoir envers les femmes yézides dans leur propre maison.
Et qui permettrait aussi probablement d'avoir des conséquences politiques pour cette région. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Chloé Troadec, chercheuse au Centre d'information du Rojava, donc au Kurdistan syrien. Noé Pignette, journaliste, ancien correspondant en Irak et en Syrie. Et Raphaël Parizeau, professeur de droit pénal à l'Université Paris-Nanterre. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à ceux qui préparent et qui réalisent Décryptage. Éléonore Krenik, Luna Timbal et Jacques Alix. Très bonne soirée à tous et à demain.